Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Oh, I thought your mama was gonna be all right. Be happy. I know I could have done better. But you gotta decide. You want to be somebody or not.
I've been doing real good. I just had a down month.
I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I...
Oh, you know me. I always land on my feet.
Don't look at that. Come on. Come on. Don't you look at... You look at me. You look at me.
You let her get away with this every time.
I told you that I would do better.
You always say that. You're lying.
I always try.
You got to think about these kids.
What do you think I've been thinking about since I was 18 years old, huh? Never had a life where I wasn't thinking about the kids.
Hillbilly Elegy, c'est disponible sur Netflix sous le nom français de Une Ode Américaine, film américain donc, réalisé par Ron Howard, Hans Zimmer à la musique. Bon tiens, c'est avec Glenn Close, Amy Adams, Gabriel Besso, Ellie Bennett, Freida Pinto et Beau Hopkins. Et vous savez quoi ? Eh ben, je vais lancer Justin, tiens, sur le pitch de ce film. Pas évident encore, peut-être. Allez, je t'aide, je te mets, voilà, la petite bande-annonce en même temps. Vas-y, tu peux faire la présentation.
Ok, alors j'ai plus les noms en tête, mais bon, on va suivre, en fait, dans un récit en flashback, on a un personnage qui est originaire, un jeune garçon qui fait des études de droit, qui passe des entretiens pour avoir un poste après ses études, et il est appelé pour rappeler dans sa région d'origine de l'Ohio, parce que sa mère a fait une overdose. Et donc, durant le trajet pour rejoindre sa mère à l'hôpital, il y a un récit en flashback où on revient sur son enfance, dans sa région d'origine, dans toutes les difficultés qu'il a pu avoir avec une mère, on va dire, assez instable, qui est un peu drogué, qui est un peu de junkie, qui est instable, avec son quotidien social assez difficile aussi, dans une sorte d'Amérique white trash, qui sont socialement en difficulté. Et donc, on suit tout ce récit en flashback, donc comment il va essayer de résoudre au présent cette problématique, et puis les origines de ces soucis présents à travers les flashbacks finalement. Et donc il y a pas mal de personnages qui gravitent autour, avec sa grand-mère qui est jouée par Glenn Close, sa sœur, voilà, en gros. Okay.
Alors forcément tu dis white trash, forcément on pense à Trump, est-ce que c'est encore un de ces portraits de l'Amérique pré-post-Trump, ces genres de qualificatifs qui veulent un peu rien dire, ou est-ce que c'est autre chose quand même ?
Alors, on est obligé d'y penser vu le contexte actuel, mais le film, il joue pas du tout là-dessus. Déjà, c'est un récit, la partie en flashback se déroule à la fin des années 90. Donc déjà, Trump, on oublie, c'était la période Clinton, les clivages étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis même, c'est vraiment le côté social, le côté humain qui prévaut, plutôt que le côté politisé ou parler de l'Amérique un peu délaissée d'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est le côté... Est-ce que c'est plutôt une histoire de rédemption plus que de dénonciation d'un contexte sociopolitique actuel ? C'est vraiment l'humain qui prime dans le récit, finalement.
Ok. Alors, je vais faire une grande annonce. Je mets Nam. Ah. Et Nam nous dit « Amy Adams fait peur ». Pourquoi Amy Adams fait peur dans Une Ode Américaine, Nam ?
C'est parce qu'en fait, alors déjà, tous les passages où elle est, en général, dans les flashbacks, elle est face à des enfants dont elle est responsable, dont elle a la charge. Et elle est très, comme disait Justin, extrêmement instable. C'est-à-dire qu'elle va passer
bipolaire, quoi.
Elle a des comportements borderline, on va dire.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle va être... elle va passer du tout au tout, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout va bien aller, et puis il y a une remarque, une chose qui va être faite, une chose qui va être dite, et elle va complètement vriller, et à ce moment-là, elle va commencer à être plutôt dangereuse, même pour ses enfants à certains moments. Et en fait, oui, c'est un personnage qui a une... tu comprends qu'elle n'a pas une vie facile, qu'elle a une rage en elle qu'elle va déverser sur la première personne qu'elle a sous la main. Ça, plus le fait qu'elle a des problèmes de consommation de drogue, Même si, par exemple, quand elle est dans les flashbacks, quand le personnage est enfant, c'est quelque chose qui est sous-entendu, qui est jamais montré, parce qu'en même temps, lui, quand il était enfant, il a pas dû y assister. Même si il y a la scène où elle se fait virer de son taf à l'hôpital, où c'est clair qu'elle a pris un truc, elle est complètement défoncée à l'hôpital. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se fait virer, en fait, plus que le fait qu'elle fasse qu'elle se déplace en roller dans l'hôpital. Et au final, son problème d'addiction, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Même si le seul moment où le film nous montre clairement, de manière frontale, sa consommation et c'est d'héroïne, c'est plus tard quand lui il revient et qu'il est adulte, mais aussi qu'il est assez grand pour comprendre ce qui se passe. Parce que quand il est enfant, il a pas été confronté à la drogue pendant un grand moment. Et en fait, et d'ailleurs, ils te mettent dans le film la première fois où il a été, où il a vu ça et c'était le fils du nouveau mec de sa mère qui lui propose de fumer un joint, en gros. Mmh. Mais avant ça, c'est vrai que tous les trucs, les pilules, l'héroïne et compagnie, dont a priori la mère consommait, même si c'est pas explicitement dit, il l'a pas vu à ce moment-là.
Ok. François, on t'a pas encore entendu.
Yep. Moi, la première question que je me suis posée, à la fin du film, en fait, on voit des images d'archives personnelles parce que c'est adapté d'une autobiographie. Mmh. Donc du gars, et c'est là où on voit que vraiment Glenn Close et Amy Adams, t'as l'impression que c'est elles étaient vraiment dans sa famille, quoi. Il y a vraiment un mimétisme qui est assez incroyable. Et en même temps, la question que je me pose, c'est que quand je regarde le film, je sais pas pourquoi, c'est une question ouverte, j'ai l'impression que ça fait hyper faux par moment, en fait. Le fait qu'il y ait ces maquillages sur elle, le côté faussement décoiffé, enfin, c'est-à-dire que leur côté pauvre est tellement élaboré qu'il y a quelque chose qui sonne un peu faux, un peu performance à Oscar comme le film a été vendu et qui m'a, moi, un peu sorti du film par moment. Je sais pas ce que vous en pensez.
Tiens, je vais mettre Justin.
Oui. Ah. Oui.
T'as entendu ce que t'as dit, François, ou pas?
Non, j'ai pas entendu. J'ai une petite...
Ah merde.
Je disais que ça faisait un peu faux, les maquillages et tout ça.
Ouais, mais je trouve que quand même, peut-être les maquillages sont pas, et encore, ça va pas trop déranger. Mais après, les actrices sont quand même authentiques. Moi, je trouve que ça fonctionne quand même, notamment le personnage de grand-mère un peu à poigne de Glenn Close. Voilà, il y a un côté, ça fonctionne. C'est pas la caricature. D'ailleurs, ils ont pas trop forcé le côté, par exemple, les accents. Il n'y a pas d'accent traînant, un peu forcé. Parce qu'il y a un côté, hein, quand on veut jouer un peu le white trash bouseux, il y a un côté où on peut en faire des caisses, où ça peut être très vite caricatural. Et je trouve qu'on évite ça, quoi.
Globalement, c'est pas le diable tout le temps, l'autre production Netflix, là, avec Tom Holland et d'autres Pattinson. Où tous ils ont des accents de white trash américain à couper au couteau, où là où t'as besoin de sous-titres pour les comprendre, parce que sinon c'est pas possible. Mais c'est vrai que pour le film, moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait, c'est une histoire de self-made man à l'américaine, le mec qui s'est sorti de la misère et qui a réussi à s'extirper de sa condition.
D'ailleurs, faut préciser, c'est une histoire vraie.
Oui, c'est une histoire vraie. Mais là, je trouve que justement, le côté histoire vraie, a quand même pas réussi à être totalement gommé par les fantasmes américains du self-made man, parce que notamment on voit bien pendant tout le film que c'est parce que sa grand-mère lui a mis des coups de pied au cul que qu'il a pu partir dans cette direction, qu'il a été épaulé tout ce temps par plein de gens, que il y a des moments où il a pris les bonnes décisions au bon moment, comme par exemple le fait de quitter sa mère et pour vivre avec sa grand-mère, des petites choses comme ça qui ont, où il y a quand même, d'ailleurs qui n'est pas arrivé tout de suite, parce qu'il y a un passage où la police arrive pour arrêter la mère parce qu'elle a été violente avec lui, et lui à ce moment-là il la protège, et plus tard il va quand même la quitter parce que parce qu'il a envie quand même d'accéder à autre chose dans sa vie. Et en même temps, on voit que il a quand même dû faire pas mal de sacrifices, que lui s'en est sorti, mais sa sœur est toujours là et est toujours obligé d'aider sa mère parce que lui ne le fait pas. Et t'as quand même ce côté quand même présent dans le présent quand il revient, parce que il veut rentrer à Yale, je crois, Et pour ça, il a besoin de faire un stage d'été pour gagner des sous, pour pouvoir se payer l'année. Et ça tombe en même temps que sa mère fait une overdose. Et du coup, à la fois, il se ressent le devoir d'aider sa mère. Et en même temps, lui, pour son avenir, il faut qu'il parte et que bah, il laisse aussi ses problèmes derrière lui. Donc il y a un côté peut-être beaucoup moins manichéen que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans ce genre d'histoire.
Ok, donc quelques notes positives. J'ai du mal à cerner vos avis tout de même. Justin, est-ce que globalement, peut-être que Justin a freeze ou alors il n'a pas du tout.
Il est vraiment très dubitatif.
Je vous propose qu'on regarde Justin pendant 5 secondes.
C'est ah là là.
Qui se demande. On sent qu'il se demande. Bon, bref.
Pas sur moi.
Ah oui, là.
Oui, t'inquiète pas. Le guide Barbu nous dit ouais, sur Amy Adams, le maquillage marche moins, mais ça va. François, du coup.
C'était pas tant un problème de maquillage qu'un problème de. Ça a l'air tellement élaboré. C'est pas que c'est mal fait. C'est pas que le maquillage, il est mal fait. C'est qu'en fait, comme c'est très élaboré et que ça veut être très naturaliste, ça marche pas. Voilà, c'était ça mon point.
Si le naturaliste se voit, c'est qu'il marche pas.
De quoi ? Oui, voilà, oui, c'est qui marche pas, mais c'est pas un problème de qualité technique du maquillage. C'est plus un problème de. C'est ça que je voulais dire. Sinon, non, mais ce que Nam a dit était intéressant parce que le film, moi, j'ai des sentiments ambivalents par rapport au film. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'ai fait bon, ça va, c'est sympa. Et en même temps, c'est hyper ringard, mais en même temps, c'est sympa et je savais pas pourquoi. Parce que je me disais, c'est hyper ringard, quoi, cette histoire de mec. Alors, déjà, un mec qui devient avocat dans une grande firme à Washington, il faudra m'expliquer en quoi c'est un succès. Moi, j'appelle ça peut-être un échec de vie. non, mais je trouve pas ça.
Quand on voit d'où il vient, ce qu'il a traversé, c'est une réussite, quand même.
D'accord. Pour moi, il a trop de galères à faire un autre, mais.
Quand tu vois ce parcours.
Il y a plus d'argent, je suis d'accord. Mais ça reste la réussite. Ça reste.
Non, mais même en termes de quand tu veux. Parce qu'en fait,
ça reste la réussite à l'américaine. C'est à l'américaine, c'est regardez, il est avocat, il a une femme et il a deux enfants. Et en plus, c'est un garçon et une fille. Alors là, franchement.
Non, mais ça, c'est le générique de fin. Mais il y a un truc qui est intéressant dans le film, c'est le côté où il faut se confronter à une sorte de déterminisme social.
Oui, bah voilà, même. Ce que Nam disait, ça, c'est intéressant. Ouais.
Et c'est limite même une malédiction, parce qu'on voit que, par exemple, on remonte dans les flashbacks, il y a sa grand-mère qui est tombée enceinte très tôt et qui a dû s'enfuir de sa région pour retrouver une autre vie. Ensuite, on apprend que sa mère était plutôt bonne à l'école, mais elle n'a pas rencontré ce soutien, cette aide qui a fait qu'elle aurait pu s'élever aussi socialement, intellectuellement, et elle en est restée là au stade où on la découvre au début du film. Et lui, au moment où il s'apprête peut-être à dépasser cette condition-là, lui aussi a cette sorte de malédiction, de déterminisme qui le rattrape. Quoi. Donc c'est ce qui est intéressant dans le film, dans la manière dont de surmonter ça. Et je pense que c'est pas du tout fait d'une manière réussie de capitaliste, parce que le côté avocat, ça intervient au début du film, on en reparle à la fin, mais tout le reste, c'est son parcours intime durant son enfance, c'est plutôt ça l'important. On a le côté un peu capitaliste, on va dire, et absolument pas appuyé. Voilà, il y a la scène au début, et puis il y a le générique de fin, on apprend ce qu'il est devenu. Mais tout le reste du film, on reste quand même à hauteur humaine, moi, je trouve.
C'est pas forcément capitaliste que je voulais dire, c'est vraiment à l'américaine. Et en fait.
Après, c'est une histoire vraie, on ne va pas lui en vouloir d'avoir.
Oui, c'est une histoire vraie, mais c'est un petit peu les Américains découvrent la sociologie.
Ça aurait été du fiction, je ne dis pas.
Non, mais est-ce que c'est pas un peu les Américains
je dis pas. Ça aurait été du fiction, je ne dis pas.
Non, mais effectivement, c'est vrai que par rapport au précédent film américain où on nous expliquait que le self-made man, c'était que la volonté, on nous explique qu'il y a aussi un déterminisme social. J'ai un peu l'impression qu'en Europe, on a fait des films comme ça il y a déjà 40 ans. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à la bourre, nos amis américains.
Au moins, on est déjà en 2020, François.
Oui, voilà, 80 ans, autant pour moi.
Après, dans le film, le fait qu'il s'extirpe de sa condition sociale, c'est quand même montré par le fait que toute sa famille, ils vivent dans la même rue. Genre, sa grand-mère, son grand-père, sa mère, ils ont tous une maison différente dans la même rue, du même quartier. Et lui, c'est celui qui a réussi non seulement à sortir du quartier, mais aussi à changer d'état, à changer de ville, à changer de, changer de vie en fait.
Qu'est-ce que dans sa famille, le mec qui sort de son déterminisme social, C'est vrai par rapport au précédent film américain, c'est un poil plus subtil. Par rapport à tout un tas d'autres films qu'on a vus, c'est vachement moins subtil.
Après, dans le film, ils le mettent en... Alors, c'est un petit peu fait, mais il y a un parallèle quand même entre lui et sa sœur. Sa sœur qui, elle, s'est pas du tout sortie de ça. Elle est toujours dans... elle est toujours dans la même rue. Elle aussi, elle s'est mariée tôt. Il y a eu des enfants tôt, comme sa mère et sa grand-mère avec elle. Et a priori, elle ne s'en sortira pas, tu vois.
Je suis pas complètement d'accord parce qu'on voit juste qu'elle a une vie de famille, elle est dans la même rue, mais elle a des enfants, ça a l'air de bien se passer. Comme quoi, tu peux rester au même endroit et ne pas sombrer non plus. Moi, je l'ai plutôt vu comme ça.
Elle
a une vie de famille, il n'y a rien de négatif dans ce qui est montré.
Il y a Geekmate qui nous dit il y a la culpabilité de la grand-mère aussi qui se rend compte qu'elle a raté avec le personnage d'Amy Adams et qui veut rattraper le coup avec son petit-fils. Qu'est-ce qu'on en pense de ça?
La grand-mère est un personnage quand même assez ambigu parce que du point de vue du petit-fils, elle est montrée quand même comme un personnage très positif, alors que du point de vue de la mère, ça n'a pas l'air du tout aussi évident en fait. Et donc ça montre un personnage qui aurait eu une forme.
Parce que y a pas mal de rancœur de la part de la mère.
On peut donner l'Oscar à Glenn Close, il n'y aura pas de scandale.
Non, je dis, il y a pas mal de rancœur. Oui, c'est sûr. Oh, même Amy Adams, quand même, elle est très très bien.
On peut donner tous les Oscars du monde à Amy Adams.
C'est vrai. Elle a toujours pas gagné d'Oscar, non?
Mais malheureusement, là, elle risque plus de gagner un Razzie qu'un Oscar. Mais
C'est une statuette quand même. Hein.
L'accueil est assez compliqué aux États-Unis.
Ouais,
l'accueil est compliqué. Alors, le Razzie, si tu veux tout savoir, puisque j'ai fait un thread là-dessus sur Twitter la semaine dernière.
Ah oui.
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait le Razzie, il y en avait qu'une version originale et que comme Sandra Bullock, elle s'était pointée pour récupérer son prix une année, elle avait embarqué le seul vrai Razzie. Sinon, normalement, c'est en post-doc. Voilà. Petite anecdote. Je sais plus qui me l'a donné, mais je le remercie.
Pour quel film?
Pour quel film elle a chopé, François, le Razzie?
Sandra Bullock, All About Steve, je crois.
Ouh. Ça a l'air sympa.
Elle a eu l'Oscar la même année pour The Blind Side. C'est ça qui est marrant.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.